Donne-moi un nombre de 1 à 9.
Bien sûr.
Suspense.
Hein?
Eh ben, c'est Cléopâtre.
Bah, comme ça.
Eh ben, ouais.
Comme ça.
Alors, qui t'a...
Donc, on a fait une pile de jeux et tout. Tout ça pour quoi? Pour rien, en fait.
Pour un jeu? Je te laisse ranger tes jeux, Christelle. Nous sommes le 31 mars 2019, la nuit du changement d'horaire, il n'y a que 23h07 aujourd'hui. Donc bienvenue dans Commentaires d'après-jeu, le podcast qui vous éveille à la critique ludique, où un groupe de joueurs différents à chaque épisode donne ses réactions à chaud juste après une partie de jeu de société. Le jeu de ce soir est Cléopâtre et la société des architectes. Donc c'est un jeu de stratégie de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, édité par Days of Wonder en 2006. Ça se joue de 3 à 5 joueurs, il faut avoir 10 ans minimum pour y jouer, et la partie est donnée pour 1 heure, nous on a mis un peu plus de 2 heures pour le faire. Le jeu coûte 50€. Donc autour de la table cette fois-ci nous étions 5, il y a moi, Philippe alias Crazy Smiler, j'ai 37 ans, je suis un joueur bien expérimenté, je suis l'hôte de ce podcast, donc vous m'avez déjà entendu dans tous les précédents numéros, et mon nez est bossu et très légèrement cassé. À ma droite, il y a Christelle.
Bonsoir Christelle, 39 ans. Je suis sur les trois quarts des podcasts de Philippe. Je joue régulièrement au jeu. Et mon nez est normal.
Bonsoir, je m'appelle Michael, alias Basal49. J'ai 31 ans, je joue régulièrement. C'est ma première sur le podcast et j'ai un gros nez. Et à ma droite, il y a Flavien.
Bonjour. Donc, Flavien, avec une bonne expérience de jeu, 33 ans, j'étais au dernier podcast de Philippe, avec trois quarts aussi de podcast, et j'ai un nez droit et arrondi. Et à ma droite, Nathalie.
Bonsoir Nathalie, 46 ans, pas beaucoup d'expérience de jeu et aucune participation au podcast de Philippe. Et mon signe particulier, mon nez, plutôt aquilin.
Très bien, donc c'est Flavien, on a joué au jeu de Flavien aujourd'hui, et c'est lui qui s'est proposé pour nous résumer les règles. Donc Flavien, on t'écoute.
Donc, rebonjour, donc résumé des règles. Donc Cléopâtre arrive sur 5 familles de construction, et il y a 6 familles de construction. Et à l'arrivée à la cinquième famille, tout le monde comptera tous ses talents d'or avec ses points de corruption. Et le joueur qui a le plus de talents d'or gagnera la partie. Sachant que les points de corruption, celui-là qui est le joueur qui en a le plus, ira au crocodile. Donc, stratégie, attention de pas non plus avoir trop de point de corruption, car ça amène au crocodile et le joueur qui a le plus de talent d'or ira au crocodile et ce sera le deuxième joueur le vainqueur. Donc c'est un jeu stratégique, simple, avec plusieurs subtilités et justement c'est un jeu de plateau en mode maquette qui se joue même avec le boîtier du jeu car on construit vraiment comme une obélisque, c'est une obélisque. Voilà pour le côté stratégique et le style du jeu. Et c'est chacun son tour en mode individuel. Il n'y a pas d'équipe. De 3 à 5 joueurs. Et je le redis bien sûr à partir de 10 ans. Voilà pour les règles. Merci à vous.
Ouais. Eh ben Fabien, est-ce que tu peux nous dire très rapidement si tu as bien aimé ce jeu? C'est la partie qu'on a faite.
Oui, j'aime beaucoup ce jeu. Donc par le côté... Justement, par l'illustration du jeu et les maquettes sont très bien faites. Et il y a le côté aussi, justement, côté original du jeu que j'ai aimé par rapport aux cartes de la pioche. Moitié les découverts et moitié cachés. Quand on mélange tout ça, bah ça, c'est un côté que j'aime bien. Ça fait une originalité des règles.
Nathalie ? Alors, moi qui n'ai pas une joueuse avertie... j'ai beaucoup aimé, de par le côté ludique, puisque je ne suis pas très stratège, et l'esthétisme du jeu. Voilà, et effectivement, je trouve que le jeu est adapté pour un enfant de 10 ans qui va maîtriser la consigne jusqu'au bout. Voilà.
Merci. Donc je disais moi, Philippe, que j'ai bien aimé ce jeu. C'est sûrement un de mes jeux préférés, même si je ne l'ai pas encore acheté. Et il a plein de petites subtilités dont Flavien vient de parler. Et en plus, ce n'est pas un jeu où il faut faire le maximum de points, comme beaucoup de jeux que je n'aime pas. Christelle, qu'as-tu pensé de ce jeu ? Pardon, Michael, qu'as-tu pensé de ce jeu ?
Ce que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de visuels, en fait, pour savoir où on en est au niveau stratégique ou les choses qu'il faut construire. Mm-hmm. Et enfin, c'est un plateau en 3D, ça change des jeux de plateau qui sont tout plats, avec plein de figurines différentes. Mm-hmm. Et ce qui a beaucoup plu, c'est qu'en fait, il faut jongler avec le talent qui correspond à l'argent du jeu et la corruption. Sachant que, bah, du coup, ça va de pair. Plus on a de talent, plus on a de corruption. Mais finalement, c'est la corruption qui élimine. Donc, faut jongler avec deux valeurs. Et il y a beaucoup de... Ouais, y a beaucoup de cartes. Y a beaucoup de... Ouais. C'est un jeu qui est difficile à appréhender, ouais. Mais finalement, qui est intéressant, bon, justement, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités.
On va y revenir après. Donc, Christelle, est-ce que tu as bien aimé le jeu ou pas ?
Oui, le jeu est sympa parce qu'il est stratégique et qu'il faut effectivement faire attention de ne pas être éliminé d'office à la fin avec les cartes... les amulettes et corruption. De corruption. Par contre, d'habitude, j'aime pas forcément les jeux qui sont avec les maquettes et des trucs comme ça. Et finalement, là, je trouve que ça prend vraiment sa place, que c'est pas juste histoire de justement rajouter du relief, qu'il y a vraiment un enjeu et que ça valait le coup de le mettre dans le jeu. Ouais.
Ok, donc on va tout de suite commencer. En parlant des règles, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'apprentissage des règles ou sur les règles en général ?
Moi, j'ai trouvé que l'apprentissage des règles, au départ, le temps d'installer déjà tout le plateau de jeu, de tout remettre bien correctement à chaque joueur, et déjà, il faut un petit temps d'installation, et que l'apprentissage des règles aussi, c'est pareil, de savoir un peu, ça a l'air assez simple. Alors par contre, il y a un super mémo qui est très bien fait, et où on comprend toutes les phases de jeu, et heureusement, parce que sinon, c'est vrai qu'au départ, on ne comprend pas trop comment on va acquérir les sous, comment on va prendre des points de corruption, etc. Même si on nous l'explique, il faut vraiment commencer après à jouer. Mais finalement, après, c'est assez intuitif quand on se met dans le jeu, donc comme beaucoup de jeux, effectivement, voilà. Mais il faut prévoir un temps d'installation en plus du jeu. En fait, je pense qu'on a pris une 20 minutes, une demi-heure quand même à installer, à donner aux joueurs les trucs.
Je pense que c'est très rapide. Par contre, Flavien, tu as relu les règles.
J'ai relu les règles parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas rejoué à ce jeu.
Voilà, ouais. Mais c'est tout. Ouais. Mais sinon, je pense que l'installation est très rapide.
Il n'y a pas de maquette demi.
Ouais, parce que...
Après, moi, je trouve que voilà, le mémo, j'en reparle. Je trouve que c'est très bien. Mais il faut être vigilant sur quelques points. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais omis 2-3 petites choses. Et du coup, dans ce mémo, il est... voilà, on lit le début et puis en fait, il est visuel, il est intuitif. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un d'intuitif, donc j'avais vu le visuel. Et après, effectivement, c'est succinct à la lecture, mais il faut bien faire attention aux termes. Donc, du coup, oui, après, ça s'enclenche rapidement, ouais. En pratiquant.
Par contre, la seule critique que j'ai pour le mémo, c'est qu'en fait, c'est une fiche recto-verso, et du coup, on est tout le temps obligé de la retourner. Alors après, je sais que c'est pour économiser de la place, mais c'est vrai qu'après, en cause, du coup, on oublie des choses, parce qu'on est toujours sur la même face... Ça nous oblige à retourner beaucoup les choses.
Ouais. Ouais. Ça m'a gêné aussi. Ouais.
Ah ouais. Moi, ça ne m'a pas du tout choqué puisque les deux faces sont... Non. Il y en a une, c'est que pour gérer les constructions et l'autre, c'est que pour gérer les tours de jeu. Et moi, ça ne m'a pas du tout choqué. Et au contraire, je trouve que c'est bien, ça prend moins de place. Après, chacun son avis. Et je répète, l'aide de jeu est vraiment très bien faite. Il manque peut-être une carte. Alors, dans les règles, il y a quelques points de détail en fait sur lesquels qui sont, comment dire, pas faciles à retenir. Notamment, je voyais le trompe-l'œil. Moi, la première fois que je l'avais fait, j'avais oublié de défausser une matière première en même temps que mon trompe-l'œil.
Il faut bien lire que ça concerne pas l'artisan.
Il faut bien dire que ça ne concerne pas l'artisan aussi.
Parce que le visuel fait qu'on s'attache aux petites... au lapis, au bois, au marbre, mais en fait, voilà. Si on ne lit pas, on nomme l'artisan, que ça ne s'adresse pas à l'artisan.
Enfin, d'une manière générale, je trouve que les règles sont quand même assez simples pour un jeu de cette envergure, et pas trop longues à expliquer pour un jeu de cette durée-là. Donc, voilà. Moi, je trouve que les règles sont très bien faites. Merci aux deux auteurs qui ont bien fait leur boulot. On va pouvoir passer aux mécaniques de jeu. Qui a quelque chose à dire sur certaines mécaniques de jeu? Moi, je vais commencer. Donc, toujours Philippe. Moi, j'ai adoré l'histoire de corruption. À savoir que donc tout au long du jeu, on peut récupérer pour construire, pour gagner plus rapidement. On peut récupérer des points de corruption que l'on va mettre dans une tirelire. Donc, il n'y a que nous qui pouvons savoir combien de points de corruption on a mis dans notre tirelire. Et à la fin, celui qui a le plus de points de corruption est donné au crocodile et donc ne peut pas gagner. L'autre, et il y a aussi deux possibilités pour se retirer des points de corruption. Une qui sera au décompte final et une qui est pendant le jeu, qui apparaît aléatoirement. Et c'est un système d'enchères en fait. On va devoir donner des points de victoire. Celui qui met le plus de points de victoire se retire 3 points de corruption, et le deuxième prend un point de corruption, le troisième 2 points de corruption, et à chaque fois qu'on perd une place, on prend un point de corruption en plus. Donc j'ai trouvé que ça c'était un très très ingénieux comme mécanique de jeu.
Moi j'ai adoré le système des palmiers, qui marche avec les mosaïques, c'est-à-dire que ça permet de se racheter et d'augmenter ses points en plus 1. Voilà, et je trouve ça pas mal.
Alors pour dire, en fait, il y a un moment où on peut construire donc une mosaïque. Voilà. Et si on arrive à poser les pièces de sa mosaïque sur des
palmiers,
ça rapporte un peu plus de poids. Voilà, pour expliquer un petit peu plus.
Moi, la mécanique du jeu que j'ai bien aimé, c'est le côté. Il y a des subtilités originales sur plein de petites formes du jeu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les cartes à moitié à l'envers et à moitié face visible, et tout mélanger, et de faire un marché avec 3 piles, et du coup on recharge avec la pioche, mais la pioche a des cartes moitié visible et moitié face cachée, et ça c'est une subtilité que je trouve vraiment très sympa. Et puis avec le côté aussi, j'aime beaucoup le style de mécanique du jeu, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté les combos. C'est que si on fait plusieurs constructions, on gagne d'autres talents d'or, du coup les points de victoire. Et si on fait par exemple 2 constructions d'un coup, on va gagner un bonus de plus 2. Si on en fait 3 d'un coup, on va gagner un bonus de plus 5. Et ça, je trouve ça très, très sympa d'avoir fait ça, parce que du coup, ça fait une subtilité en plus dans la construction. Et ça, c'est une mécanique que j'aime bien aussi. Plus le côté... de faire aussi des sanctuaires pour se défausser des points de corruption et en fin de partie. Et ça, je trouve ça aussi très sympa, ça. Donc voilà dans les côtés mécaniques que j'ai bien aimé aussi.
Bah, je te rejoins entièrement. J'allais parler exactement des mêmes mécaniques, notamment donc ce truc de cartes qui sont certaines faces cachées, d'autres faces visibles, de manière aléatoire, que je trouve très ingénieux. Généralement, il y a une pioche face cachée et plusieurs faces visibles ou autres. Là, ça change un petit peu. Et puis, mais effectivement, il y a plein de petites idées qui sont superbes, en fait, qui font toute la beauté de ce jeu.
Ça, c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup charmé. Complètement.
Et puis, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a une petite notion aussi de jouer sur la mémoire, c'est-à-dire les pioches en face cachée. À chaque tour, on repose des cartes dessus et du coup, on essaye d'enregistrer justement les cartes qui sont tombées et qui étaient en phase découverte, voir éventuellement le nombre de cartes totales sur la pile, et aussi de voir un peu au niveau des autres le nombre de corruptions qui potentiellement auraient mis dans leur cache.
Ouais,
sachant qu'à chaque fois qu'ils ramassent une corruption, on le voit, mais c'est vrai que y a un petit côté mémoire aussi.
Ouais, donc je reviens sur les cartes. En fait, on ne pioche pas une carte à la fois, on va piocher toute une pile de cartes. Donc, ce qui est aussi un petit peu généralement.
Avantageux.
Bah oui, mais on peut piocher, on sait combien de cartes contient la pile, Par contre, on ne voit que les cartes qui sont face visible, je veux dire. Donc, c'est très, très ingénieux comme système.
Non, je trouvais que c'est... Oui, c'est plutôt avantageux. On peut se racheter plusieurs fois parce que quand on va au marché et... Moi, voilà, je suis tombée sur des cartes peu diversifiées. Voilà, n'étant pas habituée, j'ai pu me racheter avec les cartes de... Comment expliquer, de pénalités, en fait. Il y a des cartes d'ambassadeurs où il y a des pénalités, mais ça nous permet voilà, de pouvoir jouer ces cartes et d'avoir l'élément qui nous manque pour construire. Donc, je trouve qu'il y a un petit côté comme ça où il n'y a pas le coup près qui tombe, mais on a plusieurs chances.
Eh ben, c'est parfait. On va pouvoir enchaîner sur les stratégies que vous avez utilisées pour gagner la partie. Alors, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Flavien qui a gagné la partie. C'était ton jeu, donc on t'a laissé.
Oui, tout à fait.
Après, on était 5. Toi, c'est ton jeu, tu le connais bien. Moi, c'était ma 3e partie que j'avais fait avec toi. Donc, je commence au bout de 3 parties, même si ça faisait longtemps, je commence quand même à bien connaître les mécaniques.
Sachant que la dernière fois que j'ai joué, c'était avec toi aussi.
Oui, ça remonte.
Donc, j'avais la même distance aussi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas rejoué ce jeu.
Ouais, effectivement. Donc, on était à peu près dans le même.
Tout à fait.
On avait toutes les deux autant de chance. Et les 3 autres ont été éliminés.
Et ça a été une surprise aussi. Mais ça, c'est un truc aussi dans la mécanique du jeu, où je reviens un petit peu dessus, c'est que c'est pas forcément le vainqueur avec plus de talent d'or. Il y a la surprise des points de corruption qui font que tu es éliminé dans la... Et c'est pas simplement un départage, si il y a des égalités, c'est tous les égalités premiers qui vont au crocodile. Et ça, c'est vrai que ça fait des surprises. Parce que là, il y a eu 3 éliminés sur 5, et on était Philippe et Flavien... qu'on était à se départager pour être au niveau après des talents d'or.
Et alors donc, Flavien, c'est toi qui as gagné. Comment est-ce que tu as fait pour gagner? Quelle a été ta stratégie?
Ma stratégie... ma stratégie, justement, je ne me suis pas concentré sur les mosaïques. Pourquoi? Parce que les mosaïques, on peut faire après des sanctuaires qu'on ferme. Les mosaïques se font avec des cases, comme un peu le Tetris. Et je n'ai pas du tout misé dessus. J'ai plus misé par des combos de construction, déjà. Donc, quand on en fait plusieurs, on gagne des talents d'or en plus. Et justement, il y a aussi des subtilités aussi de... Quand on fait une construction, on peut aussi avoir d'autres types de combos, comme un sphinx qui se pose en face d'un autre. Ça fait un 5e talent. Et si on fait 2 sphinx, le premier coûte 2 talents, le deuxième coûtera 5, et en plus j'en ai fait 2, donc j'ai un plus 2. Et ben ça, c'est une stratégie, ça coûte pas beaucoup de ressources, et ça me permet d'avoir déjà des talents d'or. Et là, donc c'était plus dans les combos comme ça, et dans les offrandes, j'ai mis un peu plus de talents, mais le premier joueur, ou avec l'égalité aussi, ça marche aussi, et ben on se défausse de 3 points de corruption. Donc ça aussi, j'ai misé pas mal sur l'offrande du grand prêtre.
Ouais, parce qu'on se défausse de 3 points de corruption, alors que le deuxième prend un point de corruption, donc ça fait un ratio de 4 points de corruption de différence.
Voilà. Et j'ai pas beaucoup utilisé mes marchands de Nil, et puis bah, c'est effectivement mes stratégies. Et puis bah, il y a la subtilité qu'à la fin de la partie, pour chaque carte qui a une corruption, ça remet des points de corruption. Donc ça, j'ai fait attention à ça. Donc en fin de partie, justement, je n'ai plus du tout. Et donc, bah, ça m'a aidé à ne pas en reprendre et puis à faire des combos. Et bah, j'ai gagné beaucoup de talents d'or. Donc, voilà ma forme de stratégie que j'ai mis en place.
Alors, tu as parlé des marchands du Nil. Je vais expliquer ce que c'est. Grosso modo, c'est un petit peu comme les gares aux aventuriers du rail Europe. C'est-à-dire que ce sont des cartes qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Si on ne les utilise pas, donc on en a 3. Si on ne les utilise pas, on gagne 3 points par carte qu'on n'a pas utilisée. Et sinon, c'est un petit peu comme un joker qui va permettre de remplacer un artisan ou une ressource primaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont utilisé des stratégies autres que Flavien pour gagner? Je vois qu'on n'a pas de gros stratèges autour de la table. Alors moi, ma stratégie, ça a été de faire un combo, comme tu dis, une combinaison, justement de 2 mosaïques, ce que toi, tu n'as pas du tout fait. Ce qui m'a permis de faire deux sanctuaires de suite, un de 4 cases, un de 5 cases, ce qui me permettait en fin de partie de perdre 9 points de corruption. Donc en fait on a fait deux stratégies, je dirais, quasiment opposées, puisque moi ma stratégie c'était de faire 2 mosaïques, et toi c'était de faire 0 mosaïque. Je crois que tu as fait la première avec laquelle tu pouvais pas faire de sanctuaire. Et donc moi ça a été de prendre des points de corruption et de m'en enlever. et toi de te prendre 0 points de corruption en fait, de toujours t'en enlever un maximum. Après, chaque partie va être différente, puisque suivant les cartes qu'on a, il faut adapter sa stratégie.
Oui, c'est ça la stratégie, parce que quand on commence à construire et qu'on a des cartes comme les obélix qui font 12 points, ou qu'est-ce qui faisait 12 points aussi,
Le trône plus le pédestal.
Le trône, ouais. Voilà. Donc une fois qu'on a pris ces points-là, moi j'en ai pris 24, t'en as pris 12 aussi, oui. Et je crois que t'as pris les 12 autres. Mmh. Donc mine de rien, on prend quand même ceux qui sont les plus faciles, entre guillemets, à obtenir
les plus forts.
Et par contre, des fois, c'est qu'est-ce que tu fais ? C'est est-ce que tu prends ces points-là et tu te mets tout de suite des points de malus, ou du coup est-ce que tu es obligé de rejouer avec les mosaïques, hein. Donc toi t'as choisi finalement d'attendre, parce que t'as pas tout posé tout de suite, et puis après d'un seul coup t'as balancé et t'as fait une combo avec 3 points et t'as récupéré voilà. Et effectivement il en restait, t'as réussi à prendre un 12 points. Moi j'avais avec 24 points que j'ai récupéré comme ça, mine de rien j'ai quand même pris quelques points de malus que j'ai dû enlever après à la fin, et voilà. Et puis après, il y a aussi le jet de dés. On n'en a pas parlé quand même avec les...
Oui.
Voilà, quand on construit, à chaque construction, on jette les dés. Et si jamais il y a la croix du prêtre, je crois que c'est comme ça que vous aviez appelé, au bout de 5 croix de prêtre, comme ça, et ben on fait le jeu des offrandes. Et donc, c'est là qu'à la fin aussi, ça a pas mal joué. Parce que, effectivement, sur ce jeu-là, moi, j'ai pris 4 points en étant la dernière, parce que vous étiez 3 ex-aequo au départ, hein. Et effectivement, c'est comme ça que je me retrouve éliminée, juste sur le fil, alors que j'avais compté mes points. Donc, on a beau essayer d'être stratège. Toi, Philippe, tu as pris des points sur la pioche des cartes sur le dernier tour, pareil.
Des points de corruption,
parce que le jeu s'est arrêté, en fait, brusquement. Il n'y a pas de... À partir du moment où, effectivement, on arrive sur la cinquième case, le jeu s'arrête. Donc, c'est difficile à anticiper, forcément.
Il y a ça aussi. Et puis, au passage, il y a ça se construit, mais à la fin, c'est vrai que les constructions vont assez rapides. Enfin, dans le jeu, ça va, les constructions vont assez rapides dans les familles qui s'accomplissent.
Oui. Moi, j'ai pioché, le dernier tour, j'aurais dû anticiper la fin du jeu, j'aurais pas dû piocher de cartes. Et sur mon dernier piochage de cartes, j'ai pris 3 points de corruption, ce qui est énorme. J'ai vraiment pas eu de chance sur ce, sur ce truc-là.
Oui. Parce que vous avez... Toi, Michael,
moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au niveau stratégie, en fait, il y a une notion de hasard. Au niveau des cartes, en fait, on espère certaines cartes et on peut bloquer pendant 2-3 tours parce qu'on a toujours les mêmes ressources. Il va nous en manquer une ou deux. Et au niveau des lancers de dés, justement, à chaque construction, c'est ça qui a changé le jeu complètement à la fin. C'est en fonction du dernier lancer de dés, et on a eu le vote pour se délester des corruptions. Et on n'aurait pas eu ça, il n'y aurait pas forcément eu les mêmes gagnants. Donc il y a une grosse notion de hasard et de la stratégie, mais après il faut s'adapter. Donc d'une partie à l'autre, il suffit d'avoir un mauvais jeu et on ne sera pas forcément premier, même si on a une bonne stratégie.
Ah oui, bien sûr. Et surtout à 5, ça va être très difficile de gagner à chaque fois. Il y a beaucoup trop d'aléatoires. Mais c'est ce qui fait, ce qui fait que ce n'est pas un jeu calculatoire comme les échecs. Et moi, ce sont les jeux que j'aime bien, quand on ne veut pas tout calculer à l'avance.
C'est un jeu de combo.
Ah, il faut réussir à faire des combinaisons quand on place les...
C'est pour moi, c'est un jeu de combinaisons.
Mais il n'y a pas que ça. S'il n'y avait que des combinaisons à la Seven Wonders ou à le jeu la Gloire de Rome, c'est trop de combinaisons.
Justement, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au Seven Wonders pour ça, ouais.
Ah, bon, et ben, on viendra plus tard dans le podcast sur les jeux semblables. Qu'avez-vous pensé de l'ambiance autour de la table ?
Voilà, pour le coup, c'est pas un jeu d'ambiance et c'est pas un jeu où on était plus concentré, donc on n'était pas forcément à rigoler. Et à certaines fois, on a bien rigolé entre nous, là on n'a pas forcément trop rigolé. On était sur le. Voilà, c'était plus de la réflexion.
C'était
et...
un jeu de réflexion.
Et beaucoup de calculs pour calculer les points, sachant qu'il y a des notions de combo, il y a des notions de je construis quelque chose, mais en fonction de la construction d'à côté, par exemple les piliers, les murs et les mosaïques, il y a beaucoup de calculs et c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Donc.
Il y a une forme de concentration, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Ça.
Et ben ouais, justement, moi ce que j'ai à reprocher, mais c'est parce que vous êtes notamment Nathalie qui est pas du tout une joueuse, c'est un de tes premiers gros jeux, on va dire, que tu fais, c'est que vous ne réfléchissiez pas avant votre tour à ce que vous alliez faire à votre tour. Alors que c'est un jeu où on a nos cartes qui ne vont pas trop changer, notre main ne va pas trop changer entre deux tours.
Moi, j'étais dans une phase découverte, et comme disait Christelle, il y a des coups à faire au tout début avec le max de points dans les constructions. Après, à savoir si c'est vraiment stratégique de faire ça, puisque toi, Flavien, tu as fait différemment, parce que tu maîtrises un peu plus. Donc voilà, moi, je suis contente vraiment d'avoir découvert un nouveau jeu, mais ça reste une phase découverte pour moi.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait.
Mais oui, enfin moi, donc je reviens sur ce que je disais, c'est que en fait, entre deux tours de jeu, moi, ce que j'aime bien, c'est réfléchir à ma stratégie. Donc moi, une fois que c'est arrivé à moi, j'avais eu beaucoup de temps pour réfléchir à ma stratégie. Je savais que je pouvais piocher, point barre, je piochais mes cartes, je jouais 3 secondes, juste le temps de piocher mes cartes, après je disais c'était bon. Et après j'attendais...
Oui, quand tu as des personnages, effectivement, quand tu pioches les cartes, il faut quand même prendre le temps de regarder parce que tu as des personnages que tu as le droit de jouer n'importe quand. Et ça peut influencer aussi la phase du jeu, donc ça valait le coup quand même de...
Quand pendant ton tour.
Voilà, oui. C'est ça. Mais donc, du coup, quand tu pioches au marché et que tu pioches un personnage dedans, effectivement, il faut regarder pour voir si tu as envie de jouer là tout de suite ou...
Mais
voilà, donc ça peut changer ta stratégie de jeu et pour peu que la personne aussi avant toi, moi ça m'est arrivé, prenne le dernier sphinx ou le dernier je sais plus quoi, là tu changes ton truc parce que ça. T'es obligé de réagencer ton.
Voilà. Pas faire ce coup.
Donc tu réagences ton truc, tu revois ce que tu veux faire et tu gagnes plus le même nombre de points. Et puis si tu calcules par rapport aussi à l'autre, tu sais à peu près combien il a, tu te dis là il a plus que moi, donc si je prends pas le risque de faire ça, ça marche pas quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Christelle, donc on arrive maintenant aux acheteurs potentiels à qui s'adresse ce jeu et qui peuvent vraiment envisager de l'acheter.
Moi je pense que c'est plutôt des ludothèques, moi j'achèterais pas parce que je verrais pas forcément trop des gens avec qui jouer si ce n'est pour faire une soirée jeu comme ça quand t'as plus de... voilà donc... ouais, dans une famille, je pense pas, parce que effectivement, il faut. Pour moi, l'âge 10 ans, c'est trop jeune. Donc, je pense qu'effectivement, il faut au moins avoir 14 ans pour que. Voilà, ou 10 ans, mais il faut vraiment que l'enfant prenne le temps et qu'il y joue 2-3 fois avant de vraiment.
Soit patient.
Voilà. Donc, après, oui, je pense que c'est plus dans les salles de jeu, les ludothèques, les trucs comme ça. Après, ça peut être intéressant.
Ça reste ouvert. Dans l'apprentissage des règles, ça reste ouvert.
Ouais.
C'est pas compliqué d'une façon comme de stratégiquement, on pourrait dire, oh là, c'est plein de stratégies, puis il faut se casser la tête à fond. Non, ça reste quand même très ouvert les règles. Il y a quand même une forme simple que j'ai trouvée dans l'apprentissage stratégique, justement, de ce jeu. Alors après, j'ai mis ambiance familiale dans le sens, pas pour dire que c'est avec les enfants de moins de 10 ans, c'est à partir de 10 ans, et puis effectivement, on va dire 12-13 ans pour les enfants, mais ça reste, on peut jouer avec plusieurs styles de personnes. C'est pas forcément qu'une catégorie stratégique ou prise ou avec une prise de tête. Ouais, ça reste très ouvert, je trouve, dans l'ambiance aussi. Parce que on peut jouer avec la famille, on peut jouer avec les parents, ça reste un jeu. Il y a un côté charmant dans ce jeu.
Donc, ludique.
Ludique. Et c'est vrai que c'est comme ça que je le mets, moi, dans les mots.
Alors, moi je veux dire que c'est un jeu donc qui peut être le premier jeu de stratégie pour quelqu'un, notamment Nathalie, ça a été ton premier jeu de stratégie de ta vie, ce qui peut te faire t'amener à faire non pas de ta vie mais ce qui peut commencer à faire, enfin, c'est un semi gros jeu on va dire, donc ça peut faire aimer et passer aux étapes supérieures. Après on a beaucoup discuté avant l'enregistrement, on disait que c'était à partir de 10 ans sur la boîte. Moi je confirme qu'un enfant de 10 ans peut jouer à ce jeu-là après quelques parties. Est-ce que ça va lui plaire? Je sais pas. Il faudra sûrement attendre qu'il soit un peu plus âgé. Mais comme tu dis, c'est pas des grosses mécaniques bien compliquées. Et donc je pense qu'à partir de 10 ans, même si ça plaira sûrement pas à des enfants de 10 ans, mais certains extraterrestres de 10 ans pourraient aimer ce jeu.
Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un adulte et 4 enfants de 10 ans. Là, ça risque d'être excessivement compliqué. Oui. Par contre, 4 adultes et un enfant de 10 ans qui fait partie de la famille, là, c'est gérable. Vrai que il faut qu'il soit libre pour 1h30, 2h de jeu pour la première partie, qui est assez long. Qu'il soit patient et puis qu'il ait envie d'apprendre, qu'il soit bien dirigé.
Donc pour en revenir sur les acheteurs potentiels, pour moi c'est tous les joueurs qui aiment les jeux de stratégie, comme on dit les jeux à l'allemande, enfin certains appelleront ça un jeu à l'allemande, même si pour moi il n'y a pas de, comme je disais au tout début, il n'y a pas le compteur autour du plateau de jeu, là ce sont des talents d'or, donc des pièces d'or si vous voulez qu'on a face cachée devant soi. Et ça, moi, comme Small World, c'est à peu près la même façon de compter les points de victoire à la fin. Et donc, voilà en gros à qui s'adresse ce jeu. On va passer aux jeux semblables. Moi, au niveau. Donc, les jeux qui ont des mécaniques similaires à celui-là, je dirais tout de suite Small World, de façon. Juste pour le comptage de points. À savoir que là, on a des talents qu'on va devoir dépenser de temps en temps, des talents d'or. Et Small World, c'est pareil, on gagne des pièces d'or que l'on pourra dépenser de temps en temps lors du jeu. Christelle, toi, tu pensais.
Moi, je pensais au Seven Wonders, parce qu'au Seven Wonders, tu commences sur une stratégie, et puis à un moment, tu te dis, bah non, j'ai pas la ressource, j'ai pas ça, il faut que je fasse autrement, et ça arrête pas d'évoluer. Et là, effectivement, à plusieurs reprises, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai dû changer ça. Au niveau, pareil, des combos, c'est vrai que dans Seven Wonders, t'as des trucs, des cartes qui te donnent, tu peux faire plus de points, parce que quand tu as plusieurs roues, machin et tout, ça te fait des trucs en plus et des points en plus. Donc là, pour moi, c'est un peu le même système, c'est quand t'en mets plusieurs à la fois, du coup, ça te fait quand même des points en plus et des choses en plus. Donc si je retrouve que le comptage de points est quand même un peu similaire, effectivement, il n'y a pas le système par contre des points de malus au Seven Wonders, mais sur l'acquisition des points bonus, par contre, pour moi, c'est en tout cas la mécanique reste la même.
Oui, alors c'est étonnant, moi je vois pas beaucoup de similarités avec le Seven Wonders, et justement je trouve qu'au Seven Wonders on peut vraiment pas anticiper ses coups à l'avance, alors que là on peut beaucoup plus anticiper ses coups à l'avance. Donc chacun, on voit tous les choses, les points de similitude à des endroits différents. Est-ce que ça vous a fait penser à d'autres jeux, vous? Non.
Non.
Eh ben très bien, est-ce que vous aviez autre chose à dire en rapport avec ce jeu?
Après, il est original. Enfin, c'est vrai que oui. Sur le thème de l'Égypte, ouais. On parle de construction.
On voyage.
Alors, c'est très imagé. C'est vraiment, on a des sphinx, des obélisques, on a un plateau, on a, c'est très des ressources pour construire des choses. Donc c'est vrai que c'est très très graphique. On joue pas qu'avec des cartes. Ouais. Il y a beaucoup de jeux où il y a que des cartes, et là c'est vraiment des objets qu'on met sur un plateau.
D'où l'intuitif.
Puis c'est intéressant parce que ça oblige à se déplacer pour construire, chacun son tour construit ses.
Ouais, donc moi je suis entièrement d'accord avec vous, c'est déjà un jeu à maquette, comme on dit, on prend des éléments du plateau, enfin de la boîte qu'on va mettre sur le plateau de jeu, et à la fin on fait une super maquette.
Ouais, voilà, construction.
Une très belle construction, et c'est donc un jeu à un thème sur l'Égypte, et grâce à tous ces éléments de maquette qu'on va poser. En fait, on n'oublie pas qu'on est vraiment un jeu à thème sur l'Egypte. En plus, bon, c'est Days of Wonder l'éditeur, donc on sait qu'ils mettent les moyens dans leur jeu. Enfin, c'est toujours du beau matériel avec Days of Wonders. Et là, encore, ça, on n'est pas déçus.
Le titre Cléopâtre fait vraiment tout de suite le thème, effectivement, encore plus. Et puis le côté, effectivement, la note, j'aime bien voir Cléopâtre avancer au fur et à mesure que les familles se construisent. Et on voit bien l'illustration, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on joue aussi avec le boîtier du jeu. Parce que c'est une boîte carrée, comme les aventures du rail, c'est le même style de boîte.
C'est Days of Wonder aussi.
Voilà, Days of Wonder. Mais on joue avec le boîtier, et on voit les illustrations en mode dessin aussi sur le boîtier. Et on voit la porte, et on voit Cléopâtre arriver avec une figurine Cléopâtre. Et c'est vrai que ça fait tout de suite une ambiance. Je suis architecte, je vais avoir Cléopâtre qui va arriver, et tout de suite, je trouve que moi, ça me met tout de suite, waouh! Je me mets avec, ça y est, je vois l'Égypte, je me mets déjà dans le personnage constructeur architecte. Et ça fait un jeu de société qui fait un peu film avec les maquettes.
Ça donne envie aussi de faire un petit rappel sur l'Égypte.
c'est ça que j'aime bien aussi dans le côté de ce jeu qui m'a bien charmé.
Donc les jeux appellent à autre chose aussi.
Ouais.
Ça reste un très beau, c'est un beau jeu d'illustration et de maquette.
Tout à fait. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter avant que l'on ferme cet épisode?
Sur l'Égypte.
Ouais. Eh bien, très bien. Donc, on va pouvoir conclure. Donc, vous trouverez mon mail dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur le mini-site. Donc, l'adresse du mini-site, vous trouverez aussi dans les notes de l'émission. C'était Commentaire d'après-jeu. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de jouer, d'analyser et de critiquer vos jeux et vos stratégies de jeu. Votre plaisir ludique n'en sera que décuplé. Nathalie, donc moi j'ai adoré ce jeu, je pense que c'est un de mes jeux préférés. Est-ce que...
Ah non, je passe,
ouais. Donc oui, j'ai adoré ce jeu, c'est vraiment un de mes jeux préférés parce que c'est pas un jeu où il faut faire un maximum de points. C'est... Je vais mettre pause.
Il recommence la même connerie.
Oh là là là. Est-ce que tu sens ton art? Est-ce que...
Fabien met de l'ambiance, hein.
Ah bah oui.
Donc... Oh, je suis désolée Philippe, j'en pouvais plus.
Oh, tu pleures de rire encore. C'est super. Donc pour expliquer, on est dans les bonus. Flavien a mangé un chocobon tout à l'heure dans la partie et il a eu un... Ça lui a fait très mal à son aft qu'il a sous la langue. Et là, il a mangé avec délicatesse son chocobon devant nous. Et c'est pour ça qu'on a tous rigolé. Et en plus, t'as été...
J'ai réussi à bien manger.
Voilà. Et t'as été discret, t'as pas rigolé.
Ben non.
Et voilà.
Ben non, j'ai fait attention.
Par contre, t'as fait le pitre et tout le monde a... Tout le monde...
Oui.
Non, mais
c'est trop fort. Je pensais pas que ça allait
faire rire
comme ça.
Non, mais écoute... Donc nous allons pouvoir reprendre, maintenant que tout le monde a récupéré ses esprits, s'est remis de ses états.